Les Dessous de l'Infox, Sophie Malibaud.
Bienvenue à toutes et tous dans Les Dessous de l'Infox. Les réseaux sociaux font leur miel de nos émotions. C'est l'engagement qu'elles provoquent qui fait tourner la machine. Notre invité s'intéresse pour sa part à leur impact géopolitique. Nous recevons Dominique Moisy pour parler de son livre « Le triomphe des émotions ». Colère sur les campus universitaires américains et européens au sujet du sort réservé aux populations civiles de Gaza. Attention cependant aux images truquées qui viennent jeter de l'huile sur le feu, nous dira Kaofi Soui de l'AFP Factuel, le service de fact-checking de l'agence France Presse. L'actualité, c'est aussi la campagne électorale qui bat son plein avant les européennes du 9 juin. Une nouvelle campagne de désinformation coordonnée est à l'œuvre. Grégory Genevrier de la cellule Info Vérif de RFI nous en dit plus tout de suite. À un mois des élections européennes, plusieurs pays de l'Union sont donc la cible d'une vaste attaque informationnelle sur les réseaux sociaux, un mode opératoire bien identifié. Bonjour Grégory Genevrier.
Bonjour Sophie.
Cette campagne de manipulation baptisée Doppelganger, qui signifie clone en français, cette campagne repose sur de faux sites et de faux articles de presse attribués à des médias réputés. La France, l'Allemagne, la Pologne figurent parmi les cibles prioritaires. L'objectif, c'est d'influencer les électeurs européens pour affaiblir le soutien à l'Ukraine, Grégory.
Oui, le Parisien et le Point en France, le Spiegel et Die Welt en Allemagne. L'identité de plusieurs médias réputés est usurpée ces derniers jours via ce que l'on appelle le typo-squatting. Cette technique consiste à enregistrer des noms de domaines, des adresses Internet quasi identiques à celles de grands médias pour créer des sites miroirs. Le Parisien.top au lieu du Parisien.fr ou le Monde.ltd au lieu du Monde.fr, par exemple. Ces sites trompeurs imitent l'adresse, mais aussi le logo et la charte graphique des médias ciblés. Le tout pour faire croire aux internautes qu'ils sont sur le site officiel, alors qu'en réalité, ils sont en train de lire un article qui n'a jamais été produit par la rédaction en question.
Et quel est le but de ces articles fabriqués de toutes pièces?
Eh bien, interférer dans les élections en critiquant certains dirigeants et en présentant le soutien à l'Ukraine comme la raison de tous les problèmes sociaux et économiques. Je vous cite quelques titres pêle-mêle. Macron oblige les Français à souffrir de faim mais à acheter des armes. La droite va redonner des ailes à la France. Ou encore, l'Ukraine a préparé une bombe à retardement pour l'Europe. En France, Emmanuel Macron est la cible privilégiée de ces faux articles qui appellent pour certains à voter directement pour le Rassemblement national. Chez nos voisins allemands, ils s'attaquent notamment au ministre de l'économie et au Parti des Verts.
Alors comment ces faux sites sont-ils mis en avant sur les réseaux sociaux, Grégory?
Alors déjà, on ne tombe pas dessus par hasard. L'accès se fait via un lien souvent douteux. Alors pour que les internautes cliquent sur ce lien, un réseau de milliers de bots a été créé. Ces faux comptes que nous avons analysés ont différentes missions. Certains sont chargés de poster le lien dans une publication, un tweet par exemple, souvent avec une phrase incitant au clic. D'autres s'occupent de repartager massivement ce post, souvent dans l'espace commentaire de publications populaires sans aucun lien avec la politique ou l'Ukraine. L'objectif, vous l'aurez compris, c'est que des internautes tombent dessus par hasard, cliquent sur le lien et pensent lire un véritable article.
Oui, et puis on peut dire que ce mode opératoire est déjà largement documenté.
Oui, cette campagne de site miroir baptisée Doppelganger est déjà en cours depuis plus de 2 ans. De nouvelles vagues de faux sites émergent régulièrement et l'opération semble s'intensifier à l'approche des élections européennes. Les investigations de Facebook et Viginum, l'organisme français de lutte contre les ingérences numériques étrangères, ont déjà démontré l'implication directe d'acteurs russes dans cette campagne de désinformation.
Alors en fait, est-ce qu'on sait précisément qui est derrière cette nouvelle tentative d'ingérence?
Non, pour l'instant, les recherches en source ouverte ne permettent pas d'identifier un acteur ou une entité précise. Ce que l'on sait, c'est que les différents liens d'accès à ces sites miroirs renvoient vers une même adresse IP, un même numéro d'authentification. Cela nous dit au moins que c'est une seule et unique structure qui héberge cette opération de manipulation.
Comment ne pas se faire avoir par ces sites miroirs, Grégory, quelques indices?
Eh bien, le moyen le plus simple que l'on peut vous donner pour ne pas tomber dans le piège, c'est de bien regarder l'URL de la page. C'est l'adresse inscrite dans la barre en haut de votre navigateur et de vérifier qu'elle correspond bien au site authentique. Pour RFI, l'URL doit commencer par RFI.fr. Si elle commence par RFI.ltd ou autre chose, vous n'êtes pas sur le site officiel, mais sur un site manipulé.
Merci Grégory Genevrier. On peut ajouter que si vous avez un doute, vous pouvez nous rejoindre sur le groupe WhatsApp Les Dessous de l'Infox au +33 6 08 94 93 05. Alors si la désinformation prolifère sur les réseaux sociaux, c'est qu'elle joue bien souvent sur le tableau de nos émotions, en jouant sur nos peurs, en alimentant les doutes, doute, notre invité analyse tous ces ressorts dans le domaine de la géopolitique.
On en parle.
Dominique Moisy, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes expert en géopolitique, internationalement connu, reconnu, membre fondateur de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, auteur de Géopolitique de l'émotion il y a 15 ans. Et aujourd'hui, vous chaussez les mêmes lunettes pour analyser l'état du monde dans votre dernier livre intitulé « Le triomphe des émotions » chez Robert Laffont, en sous-titre « La géopolitique entre peur, colère et espoir ». Alors, est-ce que ce n'est pas la peur qui domine aujourd'hui les relations internationales? Peur face à un énorme chamboulement des valeurs et des relations.
Oui, la peur a augmenté et surtout cette émotion négative qu'est la peur s'est doublée d'autres émotions négatives comme la colère. Je serais presque parfois tenté d'utiliser le mot de rage, sinon celui de haine. Donc l'objet de cet ouvrage, c'est dans mon esprit expliquer pourquoi, au cours des 15 dernières années, depuis la parution de mon premier livre sur la géopolitique de l'émotion, les émotions négatives l'ont emporté sur les émotions positives. J'ai tendance à comparer les émotions au cholestérol. Il y a du bon cholestérol, du mauvais cholestérol. Pourquoi le mauvais cholestérol s'est-il à ce point développé au cours des 15 dernières années?
Alors, il y a une notion qui ne figurait pas dans votre précédent livre et que vous développez ici, c'est le Sud global, que vous présentez comme dominé justement par un mélange de ressentiment et d'espoir aussi. Alors, d'où vient ce concept et en quoi est-il pertinent à vos yeux?
Alors, je sais qu'il est très critiqué. Beaucoup d'auteurs disent « mais non, le Sud global, ça n'existe pas ». En fait, dans mon livre, j'essaye de dresser ce que j'appelle le nouvel ordre émotionnel du monde, que je décris comme tripolaire. Il y a un Sud global animé par un mélange de ressentiment à l'égard du monde occidental et d'espoir pour lui-même. Il y a ce que j'appelle un Orient global, dominé par la colère à l'égard du monde occidental, la volonté de se substituer au monde occidental et en même temps la peur pour lui-même. Dans cet Orient global, c'est un concept, je crois, que je contribue à créer, eh bien, il y a les pays qui représentent le danger le plus grand pour leur environnement régional direct. La Russie pour l'Europe, l'Iran pour le Moyen-Orient, la Corée du Nord pour l'Asie, sinon la Chine, qui est peut-être le leader de tout ce groupe. Et puis il y a l'Occident global, et j'essaye de montrer que l'Occident n'est plus une expression géographique, et que vous avez un Occident américain, bien évidemment, un Occident européen, mais aussi un Occident asiatique, derrière des pays comme le Japon, la Corée du Sud, qui n'ont jamais été plus occidentaux, parce qu'ils ont peur de la Chine. Et puis il y a un Occident moyen-oriental, Israël, qui est très symptomatique de ce qu'est l'Occident quand je le décris à partir des valeurs de la réalité, des divisions internes, la polarisation et en même temps la résilience.
Pour Israël, justement, vous hésitez entre mettre Israël dans l'Occident global ou le Moyen-Orient?
Il y a dans mon esprit quelque chose que j'appellerais comme la moyenne orientalisation d'Israël, avec un nationalisme de la terre toujours plus grand, un nationalisme religieux toujours plus grand et une crise politique qui précède le drame du 7 octobre et la guerre de Gaza et qui contribue peut-être à expliquer ce qui s'est passé.
Alors revenons sur l'actualité justement, celle qui nous touche au plus près en Occident, les réactions par rapport à ce qui se passe entre Israël et Gaza. On a vu des campus bloqués aussi bien aux États-Unis qu'en France. Comment est-ce que vous analysez ce mouvement?
Alors j'ai la chance, si j'ose dire, d'avoir vécu un peu tout cela. Alors il y a la discontinuité totale, moi j'ai un souvenir. J'étais étudiant à Sciences Po en juin 1967, au moment de la guerre des Six Jours. Et le 5 juin, une manifestation s'est organisée spontanément parmi les étudiants de Sciences Po qui ont descendu le boulevard Saint-Germain en portant des slogans « Israël vivra » avec des drapeaux israéliens et français. Quand on pense à cela aujourd'hui et qu'on voit la réalité...
À qui est-ce que vous en imputez la responsabilité de ce nouvel ordre des choses ?
Je crois que le gouvernement actuel d'Israël porte une responsabilité considérable dans l'isolement, que je décris comme un auto-isolement d'Israël. Quelque part, il était sans doute inévitable que les émotions liées à la Shoah s'atténuent avec le temps, mais la politique menée par le gouvernement israélien a certainement été un accélérateur de l'histoire.
Alors, et ces émotions liées à la Shoah, justement, vous expliquez que c'est ce qui fait aussi la différence de réaction entre différents pays européens. Les Allemands ne réagissent pas de la même façon que les Français.
Oui, bien sûr. Et même plus globalement, entre les Occidentaux qui se sentent coupables, de moins en moins, parce que c'était il y a longtemps, et les pays du Sud global qui disent « mais vous vous intéressez à Israël parce que c'est votre histoire, mais ce n'est pas la nôtre ». Et nous ne sommes en rien coupables de tout cela. Vous avez des émotions sélectives. Donc, un des points majeurs sur les campus étudiantins, c'est cette relation entre les émotions du Sud, que portent beaucoup les manifestants pro-palestiniens, et ce qui reste des émotions du monde occidental. Alors, j'étais aussi étudiant à Harvard au début des années 70, et il est évident que ce qui se passe aujourd'hui à Columbia me rappelle ce que j'ai vécu il y a plus de 50 ans de cela. Sauf que le mot Palestine a remplacé le mot Vietnam. Et qu'à l'époque, les étudiants risquaient d'être mobilisés pour cette guerre, ce qui n'est pas, bien entendu, le cas aujourd'hui.
Alors, les guerres qui ont lieu aujourd'hui, il y a celle qui a lieu sur le sol européen, c'est donc la guerre menée par la Russie en Ukraine, qui joue en quelque sorte un rôle de révélateur du Sud global, qui finalement n'a pas les mêmes indignations que les Européens, les Occidentaux.
Tout à fait. Je crois que le divorce émotionnel du monde ne commence pas, mais s'approfondit avec... la guerre en Ukraine. Les pays du Sud nous disent « mais vous êtes complètement mobilisés derrière la cause ukrainienne parce que les Ukrainiens sont des Blancs, des chrétiens, des Européens. On meurt au Yémen, on meurt au Soudan, on meurt en Éthiopie et vous détournez les yeux, ça ne vous intéresse pas. » Donc je crois que le retour de la guerre en Europe a à la fois uni les Européens plus qu'on ne pouvait le penser, et en même temps isoler les Occidentaux plus qu'on ne pouvait le craindre.
C'est le cas notamment de la perception qu'ont les Africains de ce conflit. Comment est-ce que vous expliquez le fait que l'approche de la Russie à leur égard est aussi bien perçue ?
Alors, je crois que la Russie a été très habile au moment où elle se comporte de la manière la plus impérialiste pour récupérer ce qu'elle considère comme lui appartenant en Ukraine, elle met en avant le fait qu'elle est l'héritière de l'URSS. Et elle dit aux pays africains « mais qui vous soutenait hier, c'était l'URSS ». Et c'est un argument qui, on le voit, joue de manière très efficace, en particulier en Afrique du Sud, où l'URSS était derrière l'ANC au moment de la lutte contre l'apartheid, et ce, sans la moindre ambiguïté.
Il y a aussi tous ces narratifs qui sont de provoquer le ressentiment à l'égard des années de la colonisation et même de l'esclavage. Comment est-ce que l'Occident devrait répondre ? Comment devrait-il réagir ?
Je crois que reconnaître nos fautes me paraît évident. Je crois que l'esclavage, qui n'est pas d'ailleurs le monopole de l'Occident, le monde arabo-musulman a joué un rôle plus important encore dans l'esclavage que le monde occidental. Mais nous sommes laissés entraîner dans une politique rétrospectivement et moralement inacceptable. Nous avons reconnu nos fautes, mais nous n'avons pas nécessairement su tirer les leçons de cela. ce qui se passe en Afrique, en particulier au Sahel, et le rejet de la France est pour partie dû à la propagande russe qui a cherché à nous isoler. Mais cette propagande russe n'aurait pas fonctionné s'il n'y avait pas eu un ressenti anti-français qui était le produit d'un comportement paternaliste qui n'a pas su être dépassé. Moi, j'ai enseigné de très nombreuses années aux écoles de guerre en France et je voyais bien que trop souvent, les officiers français se tournaient vers les officiers africains en leur disant « je sais ce qui est bon pour vous et c'est à moi d'en décider ». La stratégie, à travers les accords de défense qui étaient passés entre la France et de nombreux pays africains de l'Afrique francophone, était déterminée à Paris, sans prise en considération, trop souvent, des sentiments, des positions, des analyses faites par les Africains eux-mêmes.
Est-ce que vous diriez que c'est en train de changer ou pas encore ?
Je pense que c'est en train de changer. Nous nous sommes réveillés brutalement.
Et trop tard ?
Très certainement.
Le résultat, c'est que les ponts sont coupés, vous semble-t-il, ou la France peut encore être audible dans ces pays d'Afrique sahélienne ?
Je ne dirais pas que les ponts sont coupés, mais il y a une crise grave qui prendra du temps pour être dépassé. Mais à un moment donné, les Africains eux-mêmes se rendront compte que les Russes sont encore pires que nous ne pouvions l'être dans leur cynisme, dans leur brutalité. Donc je crois qu'à un moment donné, on retrouvera une relation plus équilibrée, mais ça prendra du temps. Alors je crois que dénoncer les erreurs de la France, c'est une chose. L'utilisation de ces erreurs par des régimes corrompus qui voient dans la dénonciation de la France une sorte d'outil pour se maintenir au pouvoir en est une autre. Le comportement de l'Algérie au cours des dernières décennies est tout sauf admirable, bien évidemment. Et la dénonciation de l'impérialisme, du colonialisme, a été le paravent derrière lequel se sont abrités des régimes incompétents et corrompus.
Pour en venir maintenant à ce qui se passe en Occident même, il va y avoir des élections européennes dans un mois, un petit peu plus d'un mois. Il y a le risque de voir s'installer des partis populistes, des partis qui justement vont refuser, vont être dans le déni de ces erreurs du passé, etc. Est-ce qu'en Europe, la démocratie est menacée par ce type de parti ?
La réponse est bien évidemment oui. Mais il ne faut pas sombrer ni dans la résignation, tout est perdu, ni dans le catastrophisme, car ce n'est pas le cas. On voit en Pologne que la démocratie illibérale peut être stoppée par les élections libres. Et l'exemple donné par Donald Tusk depuis les élections d'octobre montre qu'on peut récupérer peu à peu tout ce qui semblait menacé. Deuxième exemple, au-delà de la Pologne, peut-être plus important encore pour les élections européennes, c'est ce qui s'est passé en Italie. C'est-à-dire que Giorgia Meloni, leader de l'extrême droite, a été élue et elle a adopté un comportement fidèle à ses principes en matière sociétale, mais tout à fait rationnel et en réalité rassurant en matière économique et en matière internationale.
Du fait de son soutien à l'Ukraine ?
Du fait de son soutien à l'Ukraine, du fait de son soutien à l'OTAN, et du fait qu'en matière économique, elle a très largement suivi la politique qui était menée par son prédécesseur, Mario Draghi. D'ailleurs, elle a autour d'elle des conseillers. Qui étaient les conseillers économiques de Draghi ?
Concernant l'Europe, vous hésitez entre résilience et exploitation d'un sentiment de peur, notamment par exemple sur les questions d'immigration.
Tout à fait. Je dénonce le contraste entre la raison qui supposerait pour un continent âgé, vieillissant et qui se réduit démographiquement, l'ouverture vers l'autre, dont nous avons absolument besoin si nous voulons être fidèles aux ambitions que nous mettons en avant. Et l'émotion, qui fait, la passion négative qui fait que nous rejetons ces migrants qui nous font peur et on met en avant les rares cas de dérive alors que l'intégration pour beaucoup se passe très très bien. L'exemple de l'Allemagne en a été frappant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille fermer les yeux. J'ai vu récemment un film belge tourné par un metteur en scène belge et marocain à la fois, Amal, qui est un chef-d'œuvre et qui montre ce qui peut se passer dans un pays comme la Belgique, où des cours de religion sont obligatoires et où ces cours de religion sont monopolisés, utilisés par des salafistes qui n'ont pas la démocratie comme priorité. Donc c'est ça, savoir résister aux salafistes, savoir s'ouvrir à une migration dont nous avons besoin, ça suppose du courage, un courage que les hommes politiques n'ont pas toujours.
Quelle est la responsabilité des réseaux sociaux dans cette polarisation qu'on observe aussi bien en Europe qu'aux États-Unis, et on va le voir dans les prochaines élections, sachant que les émotions sont un carburant des réseaux sociaux?
Oh, je crois qu'il y a une responsabilité très grande. Sans les réseaux sociaux, la désinformation, les fausses nouvelles, les prises de position hystériques et hyper émotionnelles serait plus difficile. Donc il est évident que des pays se servent de ces réseaux sociaux comme de caisses de résonance particulièrement utiles. C'est bien évidemment le cas aux États-Unis.
En même temps, ce sont les Occidentaux, et notamment les Américains, qui dominent les grandes plateformes. Exception faite de TikTok, les GAFAM sont américains. Comment expliquer que la démocratie américaine n'ait pas su préserver ce champ informationnel?
J'ai la faiblesse de croire que, en matière de désinformation, les pays démocratiques ont quand même des principes, des réserves. On ne va pas faire comme l'autre. Ce qui fait que... Alors c'est peut-être une forme de naïveté, mais je pense que c'est important que... nous restions fidèles à nos valeurs et à nos principes, même si ça peut être un danger pour nous.
Dans le conflit en ce moment entre Israël et Gaza, quel rôle joue cette désinformation? Est-ce que vous avez l'impression que les populations savent, sont bien informées de ce qui se passe réellement sur le terrain?
Globalement, oui, je crois. Il y a bien entendu des fausses nouvelles qui circulent, de la désinformation, mais il y a le poids des images. On ne peut pas inventer des bâtiments qui sont détruits, on ne peut pas inventer des corps que l'on enterre. On peut, mais c'est pas...
C'est marginal.
C'est marginal. Donc je crois que nous, Israël a incontestablement perdu la guerre des images, perdu la guerre de la communication, et le seul fait que les campus américains, j'y reviens, ont mis la Palestine au cœur de leur lutte est un symbole très fort. Enfin, en 1949, Arthur Kessler, décrivant le miracle de la naissance de l'État d'Israël, parlait justement, c'était le titre de son livre, « Analyse d'un miracle ». Aujourd'hui, c'est plutôt l'analyse d'une catastrophe quand on voit l'isolement dans lequel Israël s'est placé.
Merci Dominique Moïsi. Je rappelle donc le titre de votre dernier livre, Le triomphe des émotions, la géopolitique entre peur, colère et espoir, aux éditions Robert Laffont. Et l'on revient tout de suite avec Kaofi Soui du service de fact-checking de l'AFP sur les événements récents dans les campus universitaires en soutien aux Palestiniens de Gaza, avec une photo plus qu'étonnante.
Vérification faite.
Bonsoir Kaofi.
Bonsoir Sophie, bonsoir aux auditrices et auditeurs de RFI.
Il y a beaucoup de désinformation autour de la guerre entre Israël et le Hamas, avec par exemple des infox dont l'objectif est d'assimiler Israël à un État nazi. Aujourd'hui, Kaofi, vous épinglez une photo à la fois décontextualisée et trafiquée.
Oui, Sophie, l'image qui circule largement sur les réseaux sociaux semble être celle d'un rassemblement d'extrême droite si l'on s'en tient au drapeau brandi par la foule. On peut voir des manifestants portant des bannières nazies et le drapeau des États confédérés des États-Unis. Parmi les étendards visibles sur l'image, on peut aussi voir le drapeau israélien. Les comptes et les pages qui relaient l'image évoquent une combinaison intéressante de drapeaux, comme pour dire que tous appartiennent à la même mouvance.
Cette image circule alors que les protestations se multiplient sur les campus universitaires aux États-Unis notamment. Cette photo est-elle en lien avec l'une de ces manifestations ?
Non, pas du tout. Une recherche par image inversée nous permet de constater que la photo virale, en plus de ne pas être récente, n'a aucun lien avec la guerre entre Israël et le Hamas. La photo d'origine a été prise en 2017 par un professeur d'astrophysique de l'Université d'Elon du nom d'Anthony Kreider. Il s'agit d'une image prise lors du rassemblement United Right de 2017 à Charlottesville, en Virginie. Sur le cliché d'origine posté sur le site de partage de photos Flickr, on constate qu'il n'y a pas le drapeau d'Israël. La photo d'origine a donc été modifiée et le drapeau israélien rajouté là où il n'était pas. Anthony Kreider, l'auteur de la photo, a confirmé à l'AFP que le drapeau israélien n'a jamais figuré sur la photo d'origine.
L'image virale sur les réseaux sociaux est donc décontextualisée, puisque le rassemblement Unite the Right de 2017 à Charlottesville a été organisé non pas contre la guerre entre Israël et le Hamas, mais à l'appel des suprémacistes blancs dans un tout autre contexte.
Il s'agit d'une marche organisée par les membres de l'Alt-Right, un mouvement d'extrême droite actif aux États-Unis depuis les années 2000. Lors de cette marche des suprématistes blancs en 2017, une femme est décédée, fauchée par une voiture qui a foncé dans la foule. Les membres de l'Alt-Right ont scandé des slogans et des chants racistes et antisémites. Les manifestants ont entre autres crié « Les Juifs ne nous remplaceront pas ».
Merci Kaofi Soui, ce travail de vérification et bien d'autres sont à consulter sur le site de l'AFP Factuel. Les dessous de l'Infox, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à nos invités et chroniqueurs, ainsi qu'à Arthur Bon à la réalisation de cette émission. Pour les références et autres vérifications, vous pouvez nous retrouver en tapant Info Vérif RFI dans une barre de recherche. Sinon, on se retrouve ici même la semaine prochaine. En attendant, place à l'info sur RFI.
C'était donc les dessous de l'Infox. Dans deux minutes, un nouveau journal sur RFI.
RFI Soir. Philippe Le Caplain.
Et dans une bonne demi-heure maintenant, ce sera Afrique Soir. Ce sera avec vous, Gwenda Lavina. Bonsoir.
Bonsoir Philippe.
L'essentiel de l'actualité du continent, à commencer par ce qui se passe en RDC.
Oui, nous reviendrons sur ces condamnations à mort en RDC. 8 militaires, dont 5 officiers, ont été condamnés à la peine capitale pour lâcheté et fuite devant l'ennemi aujourd'hui par un tribunal militaire de Goma. Une première depuis la levée du moratoire sur la peine de mort il y a quelques mois. En ce 3 mai, nous évoquerons aussi la journée mondiale de la liberté de la presse. Journalistes, syndicats et associations de défense de la profession étaient réunis ce matin sur la place Camille Lepage, Ghislaine Dupont et Claude Verlon à Paris. 3 journalistes assassinés sur le continent pour leur rendre hommage et réclamer justice.
Également, ce qui se passe au Mali.
Oui, les rebelles du CSP prennent un nouveau nom et veulent un statut politique et juridique pour l'Azawad, nom qu'ils donnent au nord du pays. Le Mali où le réalisateur Souleymane Cissé a retrouvé son carrosse d'or, récompense du Festival de Cannes qui lui avait été dérobé la semaine dernière. Et puis la Chronique Culture nous emmène ce soir en Éthiopie. On parlera d'Afrobeats, à ne pas confondre attention avec l'Afrobeat. Parti d'Afrique de l'Ouest, le style est arrivé dans l'Est du continent pour le plus grand plaisir de nos oreilles.
Bon, bah vous nous expliquerez tout cela dans Afrique Soir sur Radio France Internationale dans un peu plus d'une demi-heure maintenant. Dans une trentaine de secondes, il sera 18h en temps universel.